France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Fanny Richer, Sacha Mattei et Loïc Antoine. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Mineta Njamana. Elle fixe le centre du monde et ses marges, la taille des continents et les frontières. Les cartes ne sont jamais neutres. Au service d'objectifs militaires et politiques, les cartes maîtresses du monde. C'est notre nouvelle série en amont du Festival de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. Nous parlerons cette semaine demain des cartes au service du renseignement, le GéoInt. Mercredi, de la responsabilité qu'il y a à cartographier l'actualité. Jeudi, de Google Maps et de ses intérêts bien orientés. Aujourd'hui, les cartes et méridiens, la fabrique du centre du monde.
Le cartographe flamand Mercator a dessiné ce planisphère au XVIe siècle. Vous voyez le Groenland ?
Je vois.
Et vous voyez l'Afrique ?
Je vois.
Ces deux masses de terre semblent à peu près de la même taille.
Oui.
Eh bien, que diriez-vous si je vous disais qu'en réalité, l'Afrique est 14 fois plus grande ?
Speak Up Africa et Africa No Filter ont décidé de lancer cette campagne pour ouvrir le débat sur la manière dont nous représentons le monde, les rapports de pouvoir et les identités. Nous cherchons à bousculer le récit dominant et ses représentations qui marginalisent l'Afrique pour que le continent soit reconnu tel qu'il est vraiment, vaste, central et incontournable.
L'Union africaine soutient cette campagne qui permettra d'instaurer un autre type de carte du monde beaucoup plus représentatif et de corriger une imprécision historique.
Où se situe le centre du monde ? Zeus lui-même s'est posé la question d'après le poète grec Pindare qui raconte qu'un jour le roi des dieux lâcha deux aigles de même force et même corpulence aux extrémités occidentales et orientales de la terre, il n'y a bien que Zeus pour pouvoir faire ça, et là où les volatiles se retrouvèrent fut situé le nombril du monde, son centre, l'Omphalos. La légende dit que ce fut à Delphes sur les pentes du mont Parnasse. Histoire grecque, centre grec, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est aussi ce que l'on reproche aujourd'hui aux représentations du monde que nous connaissons tous, celles qui sont punaisées sur les murs de nos salles de classe et qui illustrent les manuels de géographie. La projection dite Mercator, un planisphère dessiné en 1569 par le scientifique hollandais du même nom. Non seulement l'Europe y occupe une place centrale, mais elle rétrécit aussi les régions proches de l'équateur. Cette projection du monde suscite encore des débats scientifiques, mais aussi des mobilisations de la société civile, comme la campagne Correct The Map, corriger la carte, lancée en avril dernier par des ONG africaines pour abandonner la projection de Mercator au profit d'une projection dite Equal Earth, aux proportions plus fidèles à la taille réelle de chaque continent. L'Union africaine a approuvé cette idée début septembre, officiellement, mais peut-il y avoir des cartes totalement objective. Nous en parlons ce matin avec vous, Fabrice Argounès. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes géographe et géohistorien rattaché à l'INSPE et à l'Université de Rouen, Normandie. Auteur du livre Méridien, au pluriel, Mesurer, partager, dominer le monde. C'est un livre paru en août aux éditions du CNRS. Méridien, dont le méridien zéro, dont vous rappelez à quel point le choix de Greenwich était un choix politique. Il y avait une intention derrière, on en parlera. Quelle est l'intention de Gérard Mercator quand au XVIe siècle il dessine le monde sur une surface plane, selon cette projection qu'on connaît tous aujourd'hui et qu'on utilise encore surtout ?
Alors, Gérard Mercator, il y a un intérêt technique. Lorsqu'il produit sa map monde, donc effectivement en 1569, il a un enjeu, c'est de vouloir conserver les angles pour permettre de tracer notamment des routes de navigation. Puisque la mondialisation impériale européenne qui se dessine au XVIe siècle, elle est évidemment menée par des navires. On pense aux caravelles de Christophe Colomb. Et donc, c'est un moyen de se repérer en mer, qui a d'ailleurs un lien avec les longitudes. Et donc, c'est une carte qui va être considérée comme plus pratique pour les navigateurs pour pouvoir aller, par exemple, d'Europe vers l'Amérique, qui est un des grands enjeux de ce décloisonnement du monde.
Alors que la ligne droite ne reproduit pas, d'ailleurs, le chemin le plus court entre deux ports. C'est vraiment histoire de simplifier les choses, mais ça ne rend pas les navigations plus courtes. Ce n'est pas ça le but.
Exactement. Mais par contre, ça va créer un imaginaire européen qui va rester et qui reste jusqu'à nos jours une organisation particulière de l'espace mondial qui est centrée d'abord sur, on l'a dit, sur les routes, sur les conquêtes, puis sur la colonisation, et où l'Europe trône au centre de ce planisphère.
Sauf que quand on prend un globe et qu'on veut reproduire ce qui est sur le globe sur une surface plane, un planisphère, en fait, les proportions ne sont plus du tout les mêmes. Ça fausse certaines choses. Donc, ces cartes de projection de Mercator, elles étirent les territoires qui sont situés proches des pôles. Comment est-ce qu'on peut se représenter cette carte Mercator pour ceux qui essayent de saisir en quoi cette carte Mercator, elle a un petit souci quand même dès le départ de représentativité, de représentation?
C'est l'effet le plus simple, c'est l'effet de la peau d'orange. C'est-à-dire que si vous dépliez une peau d'orange, évidemment, vous la collez sur la table quand vous mangez l'orange, elle va être forcément déformée. L'exemple le plus connu, c'est que, vous l'avez dit, on parle de sphère, de sphéroïde, c'est pas tout à fait une sphère, de sphéroïde terrestre, et il s'agit d'essayer de reproduire une sphère. Vous connaissez le globe terrestre, pour les auditeurs qui sont à l'école, ils l'ont sûrement vu ou ailleurs. Eh bien, pour le placer sur une surface plane, on fait un choix de déformation. Aucun planisphère, quelle que soit la projection, aucun planisphère n'est objectif. Et donc, on va faire des choix de projection dite cylindrique ou de projection dite, par exemple, azimutale. Et donc, il y a une déformation. Et la déformation la plus connue pour celle de Mercator, c'est tout simplement que ça va, comme on va ramener toutes les lignes qui arrivent au pôle le long du planisphère, sur cette vision horizontale du monde, eh bien, on va mettre les terres, notamment, mais également les mers, mais les terres qui sont proches du pôle nord et du pôle sud, elles vont devenir beaucoup plus grosses qu'elles ne le sont en réalité.
Le simple fait de transformer une sphère en rectangle donne des résultats surprenants et même souvent gênants. Fabrice Argounès, vous êtes professeur de didactique et d'épistémologie de la géographie, mais vous connaissez aussi très bien une région du monde qu'on appelle aujourd'hui l'Indo-Pacifique. Est-ce qu'il vous arrive souvent de ne pas trouver la Nouvelle-Zélande sur une carte de projection Mercator?
Alors, c'est presque un mème de réseaux sociaux, effectivement. Et les Néo-Zélandais se plaignent, et à juste titre régulièrement, que beaucoup de cartes, par exemple lors de certaines rencontres du G7, des planisphères, ne mentionnent même pas Nouvelle-Zélande. Vous savez, qui se retrouvent à l'angle, on dirait en bas, à droite, mais en fait, parfois, qui disparaît complètement. Et donc, il y a dans cette volonté de réparer, entre guillemets, on pourra en parler pour Correct the Map, mais de réparer les représentations dominantes. Il y a un exemple très célèbre en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui est la carte dite « Down Under », c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une carte horizontale orientée, Orient, mais ici septentrionnée, c'est-à-dire tournée où le nord est en haut, c'est le contraire, on va placer le sud en haut. Et donc, évidemment, dans ces cas-là, si vous placez le sud en haut et que vous vous centrez sur un méridien qui est, par exemple, celui de Wellington ou de Canberra, eh bien, vous allez avoir la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui se retrouvent au cœur de la carte, quasiment au milieu, en haut, au milieu de la carte.
Alors que les Néo-Zélandais font souvent remarquer qu'ils sont régulièrement, purement et simplement rayés de la carte, y compris de la carte de la Coupe du Monde de rugby 2015, alors même que la Nouvelle-Zélande était la championne du monde en titre. C'est un exemple rappelé dans un autre livre, Cartographia, dont une des co-autrices, Françoise Bauken, sera l'invitée de Culture Monde dans deux jours. D'ailleurs, en tout cas, Fabrice Argonès, ces cartes Mercator, on les trouve partout, pas seulement en Europe, on les trouve aussi sur le continent africain, où l'idée de s'en passer est devenue un enjeu décolonial. Ce projet dont vous parliez, Correct the Map, est porté par deux ONG, Speak Up Africa et Africa No Filter.
Africa isn't just big. L'Afrique n'est pas seulement un grand continent, c'est un géant. Sa superficie correspond à celle des États-Unis, de la Chine, de l'Inde, du Japon, du Mexique et de la plupart des pays européens combinés. Ce n'est pas une affaire de taille, c'est une affaire de pouvoir et de perception. Ces représentations constituent le terreau du sentiment de supériorité européen vis-à-vis du Sud global. Et ça doit changer. La solution ? La projection Equal Earth, une carte qui représente le monde tel qu'il est vraiment.
Est-ce que c'est mathématiquement, scientifiquement, techniquement possible, Fabrice Argounès, une carte qui représente le monde tel qu'il est vraiment, comme le dit ce spot de campagne ?
Alors, effectivement, on l'a dit, aucun planisphère n'est parfait. Les projections, les différentes projections, obligent souvent de sacrifier quelque chose. On peut sacrifier, par exemple, la surface, c'est l'évocation pour l'Afrique. On peut sacrifier la forme, on peut sacrifier les distances, on peut sacrifier les directions. C'est-à-dire qu'on n'a jamais de cartographie rationnelle et qui serait idéale lorsqu'il s'agit de représenter, on l'a dit, la sphère terrestre, hein, sur une forme plate. Par contre, aujourd'hui, on a plutôt une vision que c'est de rappeler que la carte n'est pas le territoire. Et le choix, on peut parler de choix de cartographie réparatrice. C'est-à-dire que par rapport à des biais historiques, on l'a dit, Mercator, c'est le XVIe siècle, qui se poursuivent encore avec les grandes cartes impériales du XIXe et jusqu'à nos cartes scolaires aujourd'hui, eh bien, on a une volonté de réparer une injustice visuelle ou une injustice narrative, on le connaît pour l'histoire de l'Afrique aussi, pour des peuples, des continents qui ont été marginalisés. Et donc là, il faut sortir un peu de la vision seulement technique de la carte et bien comprendre que derrière cette initiative, je répète, il n'y a pas l'idée que la carte serait plus juste, elle serait plus juste pour la superficie de l'Afrique, mais elle est aussi plus juste pour réinsérer l'Afrique et son regard sur le monde dans une vision globale qui n'est plus seulement eurocentrée, mais qui peut être évidemment d'autres formes. Mais on pourrait dire la même chose, puisque par rapport au méridien, par exemple, de Greenwich, on a beaucoup de cartes qui sont centrées justement sur ce bloc euro-africain. Et aux États-Unis, c'est plutôt les États-Unis qui sont au centre du monde. Et au Japon, évidemment, c'est plutôt le Japon qui est au centre du monde.
Toute une histoire à rappeler autour de ce méridien de Greenwich dont vous parlez dans votre livre, Fabrice Argounès, on va y venir, mais vous disiez que la carte n'est pas le territoire, la carte n'est pas le monde réel, mais elle en est une abstraction, une réduction. Le projet Correct the Map, est-ce qu'il est porté donc par des ONG, on l'a dit, mais aussi par des cartographes, des gens dont c'est vraiment le métier aujourd'hui et qui estiment que les cartes qu'on utilise aujourd'hui, à la fois dans la façon dont elles sont faites, mais aussi l'usage qui en est fait, parce qu'il y a la carte et son usage, ne peuvent plus aujourd'hui continuer à être les seules en circulation, ou celles qui dominent en tout cas la cartographie.
C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des cartographes qui vont évoquer les limites d'une représentation dominante et en proposer d'autres. Très souvent, en milieu scolaire, hein, aujourd'hui, les enseignants et les enseignantes vont proposer, par exemple, une carte dite de Mercator, dont on vient de parler, et une carte de Peters, ou Gal Peters, qui, elle, déforme la forme, pardonnez-moi, de l'Afrique ou de l'Amérique, mais qui préserve la superficie. Et donc, vous avez tout à fait raison, la carte, c'est un enjeu majeur. C'est pas juste un enjeu technique, c'est un enjeu politique. Une carte, pour faire une définition la plus simple possible, c'est un document graphique qui figure l'organisation d'un espace donné. Ici, le monde dans son ensemble. Et ça facilite la compréhension spatiale des choses, mais ça peut aussi influencer. La carte, c'est un média total. C'est-à-dire, c'est un objet total. C'est à la fois une carte, ça peut être un objet religieux. Certaines cartes jaïnes du XVIe siècle sont des supports de prière. Ça peut être un objet artistique, on pourra en reparler. Il y avait des artistes qui s'en sont emparés pour dénoncer des choses. C'est un médium politique, c'est un médium social. Ce sont des objets de propagande. Ce sont également des objets de programmatique pour annoncer quelque chose, ou encore des objets identitaires. On parle de l'Afrique. Je pense évidemment au fait d'avoir, par exemple, la petite carte de l'Afrique autour du cou, hein, pour signifier une identité spécifique.
On n'a pas attendu 2025 pour se poser ces questions. Quelle était l'intention, encore une fois, de ce géographe allemand que vous venez de citer, Arno Peters, quand dans les années 70, il propose une projection qu'il estime plus représentative? Est-ce que lui a une idée politique derrière la tête?
Alors, il y a deux aspects. Il y a d'abord une démarche scientifique, c'est-à-dire que derrière les projections, c'est-à-dire la manière dont on va projeter le monde sur la surface plane, il y a plusieurs choix qui sont faits avec des systèmes mathématiques. Et je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, projection cylindrique, où on fait que la sphère correspond à un cylindre, ou une projection azimutale. Vous savez, la projection azimutale, par exemple, la plus connue, c'est la projection sur le drapeau des Nations Unies, centrée sur le pôle Nord, avec les méridiens qui partent de cette position dite équidistante azimutale.
D'ailleurs, c'est intéressant, il y a eu des débats aux Nations Unies à ce moment-là. Je crois qu'en une année, ils ont corrigé un petit peu leur carte, mais en tout cas, il s'agissait de représenter tous les États membres et donc de ne favoriser personne.
C'est ça. Alors, c'est une vision qui vient de la Seconde Guerre mondiale et de la dimension mondiale de la guerre. guerre, vous savez, avec deux théâtres, un théâtre européen et un théâtre asiatique avec le Japon. Et c'était des diffusions très présentes dans les journaux américains, notamment Fortune Magazine, où vous aviez ces cartes qui commençaient à se déplier avec une vision polaire, qui reprend d'ailleurs des cartes du 18e française, hein, mais qui va devenir un symbole de cette dimension mondiale de la guerre. Et lorsque la guerre est finie, pour la paix, on va aussi avoir cette dimension mondiale d'un futur. Et donc les premières représentations étaient plutôt centrées, où les États-Unis étaient en face, et pour les raisons diplomatiques, on va ramener la carte plutôt sur le méridien qui est en face, quand vous regardez la carte, le drapeau des Nations Unies, cette carte là-dessus, le méridien qui est en face est en fait le méridien de Greenwich.
Donc vous étiez en train de nous expliquer comment et quelle était l'intention de Peters à l'époque. On est dans les années 70, le contexte est d'ailleurs intéressant. C'est une période où on commence à réfléchir à la place des pays dits du tiers-monde. Est-ce que Peters, Arno Peters, le géographe, le cartographe, était un tiers-mondiste?
Alors, il va être utilisé par les tiers-mondistes. L'exemple le plus connu, c'est l'ONG Oxfam, qui dans les années 80 a repris cette carte pour bien rappeler l'importance de la présence du Sud, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, mais la présence du Sud, notamment cette superficie énorme, et vous le voyez, on rappelle, c'était dit dans un des extraits, qu'à l'intérieur de l'Afrique, vous pouvez mettre l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, etc., etc. C'est un enjeu aujourd'hui de ce qui est la cartographie critique encore actuelle, hein, c'est-à-dire la remise en cause de la supposée objectivité, de la supposée rationalité de la cartographie scientifique, et de montrer que derrière cet aspect extrêmement technique, comme pour, vous en parlerez probablement avec Google Maps, comme pour les cartes numériques, eh bien, on a des biais. On a des biais et on a des représentation des cartes. Il y a un pouvoir sur les cartes, il y a un pouvoir avec les cartes, et il y a un pouvoir des cartes elles-mêmes qui vont imposer une vision du monde. Et donc là, pour Peter, c'est l'idée de transformer la manière dont on représente le monde avec ce biais, mais qu'on pouvait aussi avoir, je répète, avec l'exemple de l'orientation de la carte qui va aussi changer.
Les cartographes de l'époque, à l'époque de Peter, n'apprécient pas son côté donneur de leçons, mais trouvent aussi sa carte tout simplement laide. C'est le cartographe états-unien Arthur Robinson qui écrit « Si on en croit Peter, tous les cartographes devraient baisser la tête et avoir honte de leur travail les années précédentes, mais sa carte à lui, elle ressemble à des sous-vêtements d'hiver longs, mouillés et en lambeaux, suspendus pour sécher. » C'est vrai que c'est à ça que ça ressemble. Enfin, on voit bien l'idée. Tous les continents paraissent étirés vers le bas comme ça. Et en effet, le continent africain a beaucoup plus de place. Mais c'est le cas aussi. Enfin, tout paraît, pour nous qui avons l'habitude de cette projection Mercator, cette carte paraît complètement étirée. C'est impressionnant. Enfin, c'est amusant comme effet.
Oui, c'est ça. C'est le principe. En fait, derrière, donc, c'est un format horizontal, mais effectivement, il y a une dimension verte, il y a une verticalité très importante des continents qui, par cette déformation, et je répète, ce ne sont pas les formes des continents telles qu'on peut les voir quand vous avez une photo, vous savez, de l'espace, de la Terre vue de l'espace, mais par contre, ça va améliorer le regard sur les superficies. Et pour rappeler, Peters avait en tête l'idée que les cartes sont des outils de pouvoir autant que de représentation. Et c'est un moyen de se réapproprier son propre rapport au monde en transformant un peu, évidemment, les représentations cartographiques. Ici, je répète, pour la carte du monde, mais c'est valable pour d'autres exemples de cartes.
Alors, il n'était pas nécessairement un militant tiers-mondiste, Arno Peters, mais il est né, a grandi à Berlin dans une famille communiste proche du groupe Spartacus de Rosa Luxembourg, et sa carte est en quelque sorte un produit de la guerre froide, diront certains qui l'ont commenté a posteriori, même si la première fois que sa carte est publiée par le magazine britannique New Internationalist, qui est un magazine de gauche, la palette de couleurs mettait en lien les pays d'une même région plutôt qu'elle ne cherchait à montrer les divisions politiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui défendent cette carte de Peters disent que ce n'était pas nécessairement une projection militante à tout prix. En revanche, si cette carte de Peters est aussi fausse d'un point de vue scientifique que celle de Mercator, alors que dit notre choix de l'une ou de l'autre pour représenter le monde ?
C'est exactement ça, c'est-à-dire que vous avez à partir du moment où il n'y a aucune carte parfaitement objective, les choix qui vont apparaître peuvent être liés à des demandes ou à des attentions particulières. Et pendant des siècles, l'Europe s'est placée au centre du monde, au cœur de ce monde. Vous connaissez probablement ces cartes, vous savez, avec les grosses taches rouges de l'Empire britannique ou les taches bleues de l'Empire français colonial, où comme la carte, il y a une carte très célèbre, c'est celle de l'exposition coloniale de 1931. Vous savez, la France qui rayonne dans le monde avec ses colonies et là qui reprend une place centrale de l'Europe. Mais À partir du moment où on pense les cartes un peu différemment, eh bien, certaines cartes vont devenir de véritables étendards d'une nouvelle manière d'appréhender le monde et de le voir. Et effectivement, celle de Peters, mais comme également la carte proposée pour Correct the Map de Equalers, eh bien, c'est une autre manière d'aborder le monde et peut-être effectivement de changer les biais qui accompagnent pas seulement une vision du monde, mais qui accompagnent souvent une marginalisation à la fois des pays, des peuples, voire des continents dans leur ensemble, comme ça peut l'être pour l'Afrique ou, vous en parliez, pour l'Océanie.
Donc, on comprend bien qu'il ne s'agit pas de choisir la carte qui nous paraît la plus juste objectivement, mais de choisir quel type de déformation on est en mesure d'accepter. Et ça, c'est l'usage de la carte aussi qui le détermine. Combien de projections du monde, Fabrice Argounès, existent à ce jour sur les cartes ?
Des dizaines et des dizaines.
Il n'y a pas que Mercator, c'est Peters, loin de là.
Mais par contre, les cartes, elles nous informent pas seulement sur le monde, elles nous informent sur les cultures qui les ont produites. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des cartes, et depuis on parlait du XVIe siècle, vous avez aussi des représentations du monde. Dans la lente construction et fabrique du planisphère tel qu'on les connaît aujourd'hui, par exemple lié aux découvertes successives comme l'Alaska, etc., ou la Nouvelle-Zélande, on a aussi des contre-regards. Les exemples très connus, c'est la cartographie chinoise, qui va elle aussi représenter le monde. Les planisphères chinois vont évidemment être centrés sur Pékin, sur l'Empire chinois, et vont représenter des marges, parce qu'une carte, c'est à la fois un centre, mais c'est également des marges. Et ce que l'on laisse en marge nous indique aussi comment est-ce qu'on repère le monde. Et bien forcément, la cartographie chinoise du XVIIe, XVIIIe siècle, ben, c'est l'Europe qui est marginale, c'est l'Europe qui est exotique, c'est l'Europe qui est lointaine.
Et par exemple, là, assez récemment, il y a une petite dizaine d'années, Xi Jinping en Chine a fait officiellement adopter une projection particulière de Xiao Guang, le nom d'un cartographe qui place la Chine au centre. Ça veut dire quoi que la Chine fait adopter cette projection-là ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à chaque fois que la Chine, qu'est enseignée en Chine la cartographie du monde, c'est cette carte-là qui est montrée. Elle est particulière d'ailleurs, il faut la décrire, elle est très verticale, cette carte du monde.
Oui, c'est ça. Alors, c'est pas la seule carte présente sur le territoire chinois, mais c'est la carte des grandes administrations. Et c'est une carte qui est aujourd'hui de plus en plus visible, par exemple en milieu scolaire chinois. C'est une carte qui date de 2012 et qui représente effectivement le monde avec une certaine verticalité. Alors pour décrire aux auditeurs, je vous invite à aller la trouver sur Internet. Mais en fait, c'est une carte qui va à la fois montrer le pôle Nord, ce qui est très rare, et le pôle Sud, c'est-à-dire que vous avez à la fois l'ensemble des terres autour du pôle et l'Antarctique très visible.
L'Antarctique, c'est vraiment très visible, il est presque le nombril de cette carte.
C'est presque le nombril. Et il y a même un troisième pôle intéressant, c'est quand on regarde, c'est l'Himalaya. C'est l'Himalaya qui ressort, un peu d'ailleurs comme les anciennes traditions indiennes ou chinoises qui plaçaient le centre du monde sur le mont Meru, dans les montagnes himalayennes. C'est surtout une carte qui va aussi avoir un petit enjeu politique. L'exemple le plus connu, c'est l'Amérique, qui est coupée en deux. L'Amérique du Nord, et donc la puissance américaine se retrouve en marge, en haut, et l'Amérique latine, donc il n'y a plus ce bloc américain que nous connaissons tous, l'Amérique latine, elle, est repoussée en bas de la carte. C'est aussi une carte qui permet de montrer la mondialisation chinoise aujourd'hui, par exemple le parcours des navires qui partent des ports chinois pour la mondialisation, pour les porte-conteneurs par exemple. Et ça raconte aussi les ambitions chinoises, puisque vous avez très bien visible la mer de Chine du Sud, et très bien visible toutes ces routes, les routes de la soie maritime, les routes de la soie terrestre qui accompagnent évidemment la nouvelle place de la Chine. Mais derrière ça, vous avez tout à fait raison, il y a aussi un message. Un message, c'est de dire, à partir du moment où la Chine devient non plus une puissance émergente, mais la deuxième puissance mondiale et potentiellement bientôt la première, eh bien, elle va fabriquer cette vision du monde qui a non seulement la place au centre, alors en réalité la Chine n'est pas tout à fait au centre de la carte, mais la place en majesté sur la carte, mais en plus va raconter une histoire aux autres peuples, et on sait que cette carte est aussi diffusée ou fait partie comme pas des cadeaux diplomatiques, mais des invitations pour des rencontres, par exemple lorsque les autorités chinoises vont en Océanie ou en Afrique.
L'Empire du Milieu qui porte bien son nom sur cette carte, est-ce que ça veut dire que la Chine ne reconnaît pas comme méridien zéro le méridien de Greenwich?
Alors, c'est un autre débat. Non, le méridien
c'est un
de
autre
Greenwich.
Débat
parce que il y a une question de centralité. Je répète, nous, on associe généralement le méridien de Greenwich à la centralité de nos cartes. je répète, en milieu scolaire, hein, c'est l'exemple le plus connu, c'est la carte la plus diffusée. Si vous allez, si vous regardez n'importe quelle carte présente sur Internet et vous tapez planisphère, vous aurez surtout un planisphère euro-afro-centré, c'est-à-dire avec l'Europe et l'Afrique qui sont au milieu, et donc Londres qui représente le méridien de Greenwich. Mais il y a un autre aspect du méridien, c'est le méridien zéro, c'est le zéro des longitudes. Et même si vous déplacez votre centre du planisphère, je répète, ça peut être effectivement à Pékin, mais comme ça peut être à Rio. En dépit de ça, les mesures faites à partir, les mesures des longitudes restent centrées sur le méridien zéro qui est Greenwich. Et l'exemple le plus connu, c'est que même des cartes, il n'y a pas que Google Maps, mais par exemple Baidu Maps, hein, qui est le leader de la cartographie en Chine, est aussi lié aux longitudes à partir du méridien de Greenwich.
On en parlera jeudi dans notre émission consacrée à Google Maps, justement. Cette histoire du méridien de Greenwich, elle est passionnante. On aurait tous aimé avoir assisté à la conférence enfin, en tout cas, moi, j'aurais beaucoup aimé avoir assisté à la conférence internationale pour l'adoption d'un premier méridien universel. C'était en 1884, je crois, à Washington. Pourquoi est-ce qu'il fallait nécessairement se mettre d'accord sur un méridien zéro à l'époque, Fabrice Argounès? On avait déjà les latitudes, en tout cas, les parallèles avaient déjà été établis, mais on n'avait pas les méridiens.
Alors, en fait, on en avait trop de méridiens, plutôt. C'est-à-dire que, vos auditeurs, l'idée, elle est très simple, c'est que pour comprendre l'équateur comme référence des longitudes, c'est quelque chose d'assez simple. L'équateur, vous savez, c'est la ligne à mi-chemin.
Oui, les longitudes, j'ai dit latitudes. On avait déjà les longitudes.
Les latitudes, oui. Mais les longitudes, c'est un aspect arbitraire. C'est-à-dire choisir une ligne sur la planète qui, pour les longitudes, ça peut être n'importe où dans le monde. Et je répète, pendant des siècles, ça a été n'importe où. Parmi les méridiens les plus connus dans l'histoire, si on prend à la fois la période antique, médiévale et moderne, on pourrait citer le méridien d'Alexandrie, cher à Ératosthène, le méridien de Bagdad, au cœur du califat musulman, le méridien de Pékin, on parlait, qui a été tracé au XVIIIe siècle, le méridien de Kyoto, le méridien de Washington, je ne vais pas tous vous les faire, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Et on a souvent des méridiens qui ont servi de référence pour la cartographie nationale. Le tracé des méridiens, c'est-à-dire le fait de tracer cette ligne de pôle à pôle, c'est aussi un moyen, à partir notamment du XVIIe siècle, de penser une cartographie scientifique. Ça va servir de base pour ce qu'on appelle la triangulation. La triangulation, c'est une mesure pour améliorer la compréhension du territoire et pour faire des calculs plus précis pour le cartographier. Et donc, à partir du moment où vous avez une démarche nationaliste, eh bien, par exemple, en France, la famille Cassini, quatre générations de Cassini au XVIIIe siècle, va partir du méridien de Paris pour tracer ces cartes. Pour l'anecdote, le méridien de Paris, vous l'avez encore, vous avez des petits médaillons de bronze avec marqué Arago, NS, Nord-Sud qui traversent Paris. Et puisque Dan Brown vient de sortir un nouveau bouquin, je rappelle que dans le Da Vinci Code, c'est utilisé comme symbole pour le récit de Dan Brown, mais à la base, c'est juste une représentation dans Paris, du 14e au 18e. Mais c'est tout l'axe Nord-Sud à partir de l'Observatoire de Paris. Et donc, vous avez donc cette représentation. Sauf que, quand vous produisez des cartes, et notamment des cartes marines, à partir de plusieurs méridiens, il faut imaginer des navigateurs au XVIIIe, au XIXe siècle, qui sont obligés de jouer avec des cartes parce qu'ils auront plusieurs méridiens. Et donc, vous avez des cartes avec le méridien de Berlin, méridien de Paris, méridien de Londres, et à chaque fois, il faut recalculer les longitudes pour correspondre. Ce qui va créer une volonté de faire ce qu'un géographe français au 19e appelait de penser la pierre philosophale de la géographie, c'est-à-dire un méridien unique pour tous et pour tout le monde. Sauf que le choix du méridien, puisqu'on dit que le choix de tous les méridiens est arbitraire, le choix d'un méridien universel l'est aussi. Et il se trouve que ceux qui ont gagné, entre guillemets, le méridien de Greenwich, n'a pas gagné pour la qualité, même si elle existait, la qualité des mesures astronomiques et scientifiques à partir de l'observatoire de Greenwich, mais le méridien de Greenwich s'est imposé par rapport aux autres, tout simplement parce que le Royaume-Uni, fin 19e, c'est la première puissance mondiale, la première économie mondiale, le premier empire du monde, et également, avec la Royal Navy, la première force marine au monde.
C'est donc l'Empire britannique qui l'emporte à 22 voix contre 25. Il y a un vote, c'est très sérieux, cette année-là à Washington en 1884. Le méridien de Greenwich en majesté, écrivez-vous Fabrice Argounès, triomphe de l'Angleterre victorienne, qui lui permet de mettre en avant aussi la grandeur de sa science, même si en réalité il n'est pas question que de science dans cette affaire, comme vous nous le rappeliez. En tout cas, c'est l'apanage. Est-ce que c'est l'apanage des grandes puissances que de vouloir se représenter au centre du monde? Vous citez en exergue de votre livre le géographe Jean-Baptiste Roux de La Rochelle, qui en 1844 écrivait « Chaque lieu, chaque homme a son méridien. Si l'on avance d'Occident en Orient, et comme on est généralement disposé à rapporter tout à son pays et surtout à soi, on est porté à choisir pour point de départ la place qu'on occupe dans l'univers. »
C'est exactement ça. Aujourd'hui, sa citation serait probablement liée au fait que sur nos téléphones portables, lorsqu'on regarde la carte par Google ou sur un Apple ou tout ce que vous voulez, vous avez ce petit point bleu qui est « on est au centre du monde très facilement » puisque tout le système de géoréférencement pour nos déplacements sont faits à partir de notre position. Que vous soyez en voiture pour aller en Bretagne, par exemple, ou que vous soyez à pied pour aller dans un café ou un restaurant pour une consommation. Eh bien là, il nous raconte la même chose, de dire qu'effectivement, les pouvoirs, lorsqu'ils se sont établis, qu'ils aient eu des volontés de fabrique du territoire national, voire des volontés impériales et de colonisation, se sont souvent placés au centre du monde. Et vous avez tout à fait raison, la concurrence principale, c'est une concurrence entre grandes puissances. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles le méridien de Greenwich s'est imposé, c'est parce que à côté de l'Empire britannique, les États-Unis d'Amérique, donc nouvelle puissance américaine à la fin du 19e siècle, a tranché et a accepté de ne pas promouvoir le méridien de Washington, mais de s'associer pour le méridien de Greenwich. Et donc, c'est l'alliance anglo-saxonne, entre guillemets, hein, qui va aussi participer à imposer cette vision particulière et ce méridien qui n'est pas seulement au centre, qui ne se retrouve pas seulement au centre de nos cartes, mais qui est aussi sur nos montres.
Oui, sur nos montres.
Évidemment, central.
Placer l'Europe au centre des cartes, c'est aussi quand même permettre que tous les continents soient représentés dans leur entièreté. La coupure se trouve au milieu de l'océan Pacifique, à tel point qu'on est nombreux, quand on était petit, à ne pas avoir compris que le Japon était si proche des États-Unis, par exemple, et que malheureusement les bombardiers américains avaient mis beaucoup moins de temps qu'on aurait pu le penser pour aller larguer une bombe sur Hiroshima. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert plus tard, quand enfant, on n'était pas spécialement familier de ces règles-là et ces subtilités des cartes. En tout cas, les États-Unis, par exemple, ne s'embarrassent pas de ce genre de considération, puisqu'il montre aux élèves un monde américano-centré. L'Asie est littéralement coupée en deux, ce qui fait qu'en 2017, plusieurs établissements scolaires de Boston avaient milité pour adopter la projection Equal Earth.
Nous ne voulons pas que nos élèves se disent que nous leur avons menti 10 ou 20 ans après avoir quitté les bancs des écoles publiques de Boston. Cette réflexion sur les cartes, c'est un tournant. C'est une occasion de réfléchir à construire de nouveaux parcours pédagogiques plus adaptés aux enjeux d'équité et de décolonisation. C'est très important pour nos élèves de couleur qu'ils aient les clés pour comprendre et défendre ce qu'ils sont, leurs origines. Ils doivent être en capacité de resituer leur histoire dans le contexte d'une société qui n'est pas égalitaires. Bien souvent, ils sont même victimes de cette société. Si nous n'abordons pas ces sujets dans nos salles de classe, nous allons contre l'intérêt de tous nos étudiants, mais plus encore de nos étudiants de couleur.
Et c'est vrai que les cartes de projection Mercator ont de quoi rendre les États-Unis complètement mégalo. Est-ce que vous pensez, Fabrice Argounès, que Donald Trump veut acheter le Groenland parce qu'il pense vraiment que ce territoire a la même taille que le continent africain alors qu'il est 14 fois plus petit, ou alors que sur les cartes en projection Mercator, l'Alaska paraît 3 fois plus grande que le Mexique alors que le Mexique est en fait plus grand que l'Alaska de 10 millions de kilomètres carrés. Mais tout ça finit par fausser la vision du monde des États-Unis.
Alors les États-Unis, c'est un pays qui s'est fabriqué aussi sur le mythe, hein, le mythe du Go West, vous savez, de l'Ouest américain, et le mythe d'un territoire présenté comme, qui n'était pas vide évidemment, présenté comme vide, vierge ou à s'accaparer. Et donc on a toujours l'idée de cette nouvelle frontière américaine, qui un temps ça a été la Lune avec Kennedy, d'ailleurs ça le redevient, Mars avec Elon Musk, mais aussi sur la planète effectivement il y a cette idée que un territoire, Donald Trump présentait une des dernières fois qu'il en a parlé pour demander que le Groenland soit potentiellement le 51e, enfin le Canada le 51e et le Groenland le 52e état, il a parlé d'un deal, mais d'un deal comme dans l'immobilier, pour une raison raison toute simple, c'est que ça a aussi l'imaginaire d'un Groenland quasiment vide, parce qu'il y a peu d'habitants au Groenland. Et donc, cet imaginaire-là, il rejoint un peu l'imaginaire européen sur l'Amérique, l'Australie, l'Afrique, à partir du XVIe siècle, sur les territoires blancs, vous savez, les blancs de la carte, des choses où il y avait, où on mettait rien, on mettait des animaux, on mettait du symbole, on mettait hic sunt leones, ici sont les lions, sous-entendu, c'est un territoire sauvage. Et donc, ça fait partie aussi, ça légitime à la fois la traversée du territoire, la conquête du territoire et l'appropriation coloniale. Et ça a tendance à invisibiliser les peuples, autrefois des peuples, par exemple, autochtones en Afrique ou en Australie, mais aujourd'hui, l'invisibilisation carrément de la population groenlandaise.
Vous racontez par exemple, Fabrice Argonès, l'histoire de ce chef traditionnel camerounais, le sultan Ibrahim Njoya, qui règne sur une partie de ce qu'est le Cameroun actuel, c'est entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, en voyant les Allemands arriver sur son territoire pendant la colonisation, enfin pour la colonisation. Lui, il est depuis sa capitale Foumban, il fait produire des cartes en allemand. Qu'est-ce qu'il veut montrer aux colonisateurs ?
Alors, c'est de la contre-cartographie de résistance. Pour résumer, à la fin du 19e siècle, l'Afrique, elle est explorée. Elle est cartographiée et elle est annexée. On pense à la conférence de Berlin. Et la géographie et la cartographie deviennent, comme ailleurs, on en a parlé, des sciences impériales par excellence. Et des dirigeants africains s'en emparent également de ces sciences, qui est souvent méconnue, pour affirmer leur souveraineté face aux puissances coloniales. Et c'est effectivement le cas du sultan Njoya, Ibrahim Njoya, donc, qui est le roi des Bamoun. On est dans l'ouest du Cameroun. Et en fait, confronté aux appétits allemands, vous savez, puis français, après la Première Guerre mondiale, il va inscrire son royaume dans une certaine modernité, dans une modernité alternative, en inventant une écriture, en inventant des lois spécifiques et en inventant ce qu'il appelle le livre du pays, qui est à dire une cartographie du Borium Bamoun, vous l'avez dit, de sa capitale. Et en fait, ça mêle à la fois tradition et innovation. Il se sert des savoirs cartographiques européens, allemands en particulier, mais également des savoirs cartographiques traditionnels. La carte devient une véritable un régalia, c'est-à-dire que ça fait partie de la manière dont on montre l'État. Et c'est ce symbole de modernité alternative. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est en fait abandonné avec la mise en retrait, on va dire, du roi, l'exil, ensuite par les Français. Et les cartes de Njoya, elles perdent leur fonction première, très politique, pour devenir des objets, vous savez, de curiosité, des objets de ethnographiques, esthétiques, exotisés, et notamment, les cartes, elles vont apparaître dans l'exposition coloniale de 1931, dans le pavillon de Togo au Cameroun, et en fait, ça va juste être présenté comme des œuvres d'art, sans jamais mettre en lien l'intérêt de cette cartographie pour le pouvoir Bamoun.
Donc c'est presque aussi une façon de moquer ces cartes, de les décrédibiliser, de les délégitimer en quelque sorte. En tout cas, si à la question de savoir quelles cartes pourraient mettre absolument tout le monde d'accord, je crois qu'on a compris à travers ce que vous nous dites, Fabrice Argounès, que c'est difficilement possible, en tout cas que la question ne se pose même pas vraiment dans ces termes, d'abord parce que la production de cartes mondiales n'est pas régie par une seule autorité et qu'aspirer à la carte parfaite, c'est aujourd'hui un leurre. Le fantasme de la carte absolue, la carte à l'échelle 1 sur 1, c'est ça, on dit comme ça, ou 1 pour 1, grandeur nature, qui figurerait jusqu'à la moindre fleur, la plus petite des fourmis. Par exemple, c'est ce qu'avait imaginé Borges dans son texte de la rigueur de la science en 1946.
En cet empire, l'art de la cartographie fut poussé à une telle perfection que la carte d'une seule province occupait toute une ville, et la carte de l'Empire toute une province. Avec le temps, ces cartes démesurées cessèrent de donner satisfaction, et les collèges de cartographes levèrent une carte de l'Empire qui avait le format de l'Empire et qui coïncidait avec lui, point par point. Moins passionnés pour l'étude de la cartographie, les générations suivantes réfléchirent que cette carte dilatée était inutile, et non sans impiété, elles l'abandonnèrent à l'inclémence du soleil et des hivers. Dans les déserts de l'Ouest, subsistent des ruines très abîmées de la carte. Des animaux et des mendiants les habitent. Dans tout le pays, il n'y a plus d'autres traces des disciplines géographiques.
Est-ce que la reproduction de ce que nos yeux perçoivent déjà, Fabrice Argounès, a un quelconque intérêt ? Est-ce qu'une carte qui refuse toute simplification et donc se dit bon, on va tout dessiner grandeur nature, est-ce qu'elle est condamnée à se transformer en ruine, comme l'écrit Borges dans ce récit ?
Alors, c'est la quête de l'utopie cartographique par excellence. C'est une hétérotopie, hein, cartographique, qui est à la fois intéressante parce que c'est Évidemment, Borges, il raconte aussi l'inanité un peu de cette idée d'avoir une carte pour le monde, mais ça nous raconte aussi les limites, effectivement, de cette vision d'une carte idéale, d'une carte parfaite. Et d'ailleurs, vous en parlerez probablement avec Google Maps, hein, même la cartographie numérique contemporaine montre ses limites, hein, avec les questions de marchandisation, par exemple, des lieux. Et cette idée de la carte qui reproduit l'ensemble du monde, elle est toujours un peu difficile à garder parce qu'on a toujours des informations qui n'y apparaissent pas. Et je disais, pour Google Maps, par exemple, c'est plus facile de trouver un McDo qu'un médecin sur Google Maps.
Björk et sa Human Behavior, le comportement humain, cette chanson date de 1993, où la chanteuse islandaise raconte comment d'après elle, certaines choses sont impossibles à cartographier, notamment le comportement humain. Soyez prêts à vous perdre, il n'y a pas de carte et la boussole ne vous servirait à rien. Carte et méridien, la fabrique du centre du monde, c'est le premier épisode de notre série sur le pouvoir des cartes. Aujourd'hui avec notre invité Fabrice Argounès, qui publie Méridien, mesurer, partager, dominer le monde aux éditions du CNRS. Si la carte a toujours été un instrument de conquête du monde, les peuples autochtones se sont aussi emparés de cet outil.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Loin de cartes au service des dominants, il s'agit pour les peuples autochtones de défendre leurs identités. Au Canada, les Innus du lac Saint-Jean, qui font partie des Premières Nations canadiennes, figurent parmi les pionniers de cette pratique, de cette politique. Bonjour Irène Hirt.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de géographie à l'Université de Genève. Vous avons déjà reçu dans Culture Monde pour parler il y a quelques mois des Innus du lac Saint-Jean. Il se trouve que vous avez supervisé auprès des Innus un atelier de cartographie participative. D'abord, est-ce que c'était une demande de leur part ?
Oui, alors superviser justement, c'est pas tout à fait le mot.
Accompagner.
C'était une collaboration avec les partenaires autochtones.
Oui, veuillez m'excuser, c'était pas bien choisi.
Oui, mais parce que c'est effectivement tout l'enjeu de ce genre de projet, c'est qu'on supervise pas, mais on collabore comme des partenaires. Et effectivement, c'était leur demande de faire un atelier de cartographie participative pour mettre en évidence les pratiques du territoire et les représentations du territoire des jeunes, parce qu'habituellement, c'est plutôt les savoirs des anciens, des aînés qui sont valorisés dans ces sociétés, parce qu'on considère que ce sont des dépositaires des pratiques territoriales qui ont été déstructurées par la colonisation. Donc, les jeunes, c'est moins fréquent.
To map or to be mapped, cartographier ou être cartographié par d'autres, c'est ce que vous disent les Innus sur place, mais en utilisant pour eux, to map, les outils de la science et de la technique. C'est une démarche donc différente de la contre-cartographie, qui consiste à définir un territoire à travers des savoirs non occidentaux. Pourquoi ont-ils, eux, fait ce choix de recourir à la carte ?
Oui, alors le mot contre-cartographie au tout départ avait été utilisé aussi pour ce genre de pratique, mais en fait ce qu'il faut distinguer, c'est le fait d'utiliser des cartes pour défendre des droits par rapport à des États et puis l'autre démarche, ce serait décoloniser la carte elle-même en tant que représentation occidentale. Donc les Inuits, comme beaucoup d'autres peuples autochtones des Amériques, mais aussi dans d'autres régions du monde, utilisent en fait la cartographie, le langage cartographique étatique pour défendre des droits. Je ne sais pas si c'est exactement ce que vous
dites. Si, exactement. Ils cartographient, les Inuits, leur territoire depuis assez longtemps. Ils ont des cartographes, des institutions. Et quand ils commencent à recourir aux cartes, c'est dans les années 60-70, quand les grandes entreprises privées arrivent avec leurs appétits sur les ressources du Grand Nord. D'abord, que disent et que ne disent pas les cartes officielles du territoire Inu, ce que à la fois l'État canadien, mais aussi ces grandes entreprises privées qui les utilisent dans les années 60-70, voilà, ces cartes qui définissent un territoire.
Oui, alors les Inuits, eux, c'est plutôt à partir des années 80 qu'ils ont fait ces cartes-là, mais il y a d'autres peuples qui ont effectivement commencé dans les années 60, notamment dans vraiment le Grand Nord canadien. C'est que les cartes officielles du Canada, mais aux États-Unis, vous allez trouver des choses similaires, c'est que ces cartes-là, plutôt que de tout à l'heure avec votre autre, avec Monsieur Argounès, vous avez discuté de ce que les cartes représentent comme déformation ou comme vision occidentale ou centrée. Dans ce cas-là, ces cartes-là, et il l'a dit aussi, c'est qu'elles ont complètement effacé la présence autochtone en général. C'est qu'elles ont contribué à les inviliser, à suggérer qu'il y avait c'était des terres qui n'étaient pas habitées, dans le fond.
Avec aussi une vision très figée qui occulte leur manière d'habiter la terre, une manière à l'origine plutôt nomade. Comment d'ailleurs les nomades que furent les Inuits se déplaçaient-ils sans carte avant leur sédentarisation forcée ?
Alors oui, ça c'est un très vaste débat. C'est que là, nous, bon, aujourd'hui on parle de carte et c'est un vocabulaire, c'est un mot. Mais dans le fond, eux aussi avaient leur propre carte, même si ils ne portaient pas ce nom-là. Mais c'était plutôt des savoirs qui se matérialisaient pas forcément sous forme de représentations ou d'objets, mais c'était des savoirs extrêmement complets sur l'environnement, sur le territoire, qui leur permettait de se déplacer sur des très grandes distances. Et ils se déplaçaient pas par hasard, comme les stéréotypes parfois dominants. On a cette idée que les sociétés nomades se déplacent un peu au hasard, errent sur le territoire. Pas du tout. C'est des sociétés qui savaient qu'il y avait des itinéraires extrêmement planifiés, qui répondaient à des savoirs extrêmement précis de l'environnement, des conditions climatiques, du cours des rivières. Ils se déplaçaient à pied, en canot, en raquette, et ça demandait des connaissances extrêmement précises, mais qui n'étaient pas sous forme d'objets, de représentations.
Ils avaient des points de repère hydrographiques, géographiques notamment, dont j'imagine d'ailleurs qu'ils ont servi ces repères-là aux premiers missionnaires. Quand ils arrivent sur place, ils doivent bien demander aux Inuits comment eux se repèrent pour pouvoir eux-mêmes se déplacer et ensuite peu à peu dessiner une sorte de carte de territoire que eux convoitent.
Exactement. C'est-à-dire que chez les Inuits, mais on retrouve ça dans d'autres sociétés, on sait que les premiers cartographes euro-canadiens, quand ils se déplaçaient, les premiers géologues, c'était des cartes de missionnaires ou des cartes de géologues, etc., ils se sont fait accompagner par des guides Inuits, parce que sinon, ils n'auraient pas eu beaucoup de chance de savoir où aller et de survivre en territoire. Donc, les Inuits, effectivement, ont dessiné souvent des cartes à la demande des colonisateurs. Et ces cartes, des cartes de missionnaires ou des premiers géologues, invisibilisaient pas toujours, mais assez souvent invisibilisait cette contribution autochtone, en fait. Mmh. Ça fait partie d'une décolonisation aujourd'hui des savoirs cartographiques de reconnaître ça.
J'ai sous les yeux certaines des cartes, vous en avez publié, on mettra le lien sur le site de Culture Monde, des cartes que vous avez donc dessinées avec les Innus en co-construction. Donc on voit un territoire délimité comme ça par une ligne un peu mouvante, et puis à l'intérieur on voit des traces de pas, il y a une plume, il est écrit quelque part « montantement territoire à mon père » ou « mon camp, ancien territoire à mon... » Alors j'arrive pas à déchiffrer le mot en tout cas. C'est comme ça que sont indiqués les lieux des personnes, des Innus avec qui vous avez donc travaillé sur ces cartes. À qui et à quoi servent-elles ces cartes-là aujourd'hui?
Oui, bonne question. Alors les Innus du lac Saint-Jean, les Pekwakaminuts, ont leurs propres cartographes, comme vous l'avez suggéré. Ils font des cartes pour aujourd'hui négocier des droits avec le gouvernement provincial ou fédéral. Mais l'exercice qu'on a fait en collaboration donc avec mes collègues géographes aussi de l'Université Laval et les Pekwakaminuts, c'était plutôt des cartes qui n'ont absolument aucune prétention de réclamer des droits par rapport à un État ou autre. C'était plutôt des cartes qui visaient une démarche un peu réflexive pour que les jeunes s'interrogent sur c'est quoi mon identité, c'est quoi le territoire qui pour moi fait sens, quelles sont les pratiques, parce que les jeunes aujourd'hui habitent dans ce que on a appelé des réserves, qui sont des villages, c'est là où ils ont été sédentarisés, et certains d'entre eux vont encore pratiquer de la chasse ou vont dans leur temps libre en territoire, donc ils vont encore avoir des pratiques plus traditionnelles qui font sens dans leur culture, alors que d'autres non. Donc il s'agissait un petit peu de se pencher sur ces pratiques-là, sur comment eux ils voient leur territoire. Et est-ce que ça donne sens à leur identité ou pas aujourd'hui?
Les plus âgés, d'ailleurs, vous racontez dans vos travaux, Irène Hirt, ont tendance à représenter les barrages et les infrastructures qui ont été construites dans leur jeunesse, parce qu'elles ont eu un effet énorme sur la nature, sur le cours des rivières, et ils l'ont vu de leurs propres yeux, des territoires familiaux inondés, par exemple. Et donc, ça a fait disparaître certains repères, autant géographiques qu'affectifs. Donc, certains sur ces cartes les notent, les précisent, alors que d'autres, les plus jeunes, pour eux, c'est entrer dans les mœurs. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Irène Hirt, d'avoir été avec nous. Et je rappelle que vous êtes professeur de géographie à l'Université de Genève. Fabrice Argounès vous a écouté avec attention. Alors, Fabrice Argounès, est-ce que ces cartes-là peuvent servir à bâtir une forme de souveraineté territoriale? Est-ce que c'est leur objectif? Est-ce qu'il y a eu d'autres exemples de... Donc, on ne parle pas de contre-cartes, manifestement, mais de cartes dont l'usage est censé être différent des cartes jusqu'à présent.
Mais il y a des enjeux qui sont à la fois liés, par exemple, à la question de toponymie. C'est le travaux, un collègue d'Irène à Genève, Frédéric Giraud, par exemple, qui parle de toponymie critique ou politique. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, tout un enjeu aussi, et Irène Hirt l'a bien rappelé, de remise en cause des toponymies, souvent coloniales, par exemple, et différentes formes de figuration héritées, vous savez, soit du colonialisme, soit du patriarcat. On pense, par exemple, aux nombreuses rues Gisèle Halimi, aujourd'hui, qui sont dans plusieurs villes, où la plupart des voies sont quand même très masculines. Quand on regarde les noms. Et donc, ça permet de rappeler que la reconnaissance des savoirs, des mémoires dites subalternes ou invisibilisées, est un enjeu, est un moyen aussi de se réapproprier son territoire, qu'il s'agisse évidemment du Canada ou d'autres régions du monde.
Merci beaucoup, Fabrice Argounès. Vous êtes géographe et géohistorien rattaché à l'INSPE et à l'Université de Rouen en Normandie. Votre livre « Méridien » au pluriel a paru aux éditions du CNRS en août dernier. Et vous êtes par ailleurs le co-directeur d'un ouvrage collectif « Géographie » au pluriel encore, un dictionnaire, paru également aux éditions du CNRS, enfin qui paraîtra en octobre aux éditions du CNRS, et où Irène Hirt d'ailleurs signe un article, un chapitre colonial, post-colonial, décolonial. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Près de 50 000 personnes ont manifesté hier aux Philippines, Catherine.
Nouvel exemple des révoltes anti-corruption qui secouent l'Asie ces dernières semaines avec une jeunesse qui se mobilise en ligne et qui déploie ensuite dans la rue ses slogans et ses symboles, compris par la génération Z, explique CNN et le journal singapourien The Straits Times. Hier, face aux policiers en uniforme bleu, parfois veste jaune fluo, qui assénaient des coups de matraque contre les 50 000 manifestants en jeans, en shorts et t-shirts noirs ou blancs, comme le montre le quotidien Philippe Manila Bulletin, certains brandissaient un drapeau noir avec un crâne souriant coiffé d'un chapeau de paille avec un bandeau rouge. Oui, c'est bien le drapeau du célèbre manga One Piece, imprimé à plus de 500 millions d'exemplaires dans le monde, rappelle CNN. Et on a pu le voir hier dans les rues et parcs de Manille, confirme The Philippine Star. Ce pavillon pirate de l'équipage de Luffy, le héros de One Piece, confronté entre autres dans ses aventures rocambolesques à la corruption des dirigeants. Des Philippins en colère contre un énième scandale de corruption, explique le Manila Times. Cette fois, autour d'infrastructures anti-inondations fantômes qui auraient coûté des milliards de pesos philippins aux contribuables, l'équivalent de 15 milliards d'euros, estime Greenpeace et la BBC. Il s'agit de contrats passés avec de grands groupes du BTP pour des digues, des ponts, des routes qui ne se matérialisent jamais, mais qui s'accompagnent de pots de vin qui enrichissent les législateurs. Inacceptable pour Crisa Tolentino, une enseignante de 36 ans qui doit circuler en bateau pour se rendre à son travail ou à la clinique où elle est soignée pour un cancer, raconte la BBC. Crisa s'est depuis longtemps résignée aux inondations comme mode de vie, mais aujourd'hui, elle est très en colère car une mousson particulièrement violente a perturbé le quotidien dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Des rues se sont transformées en torrents cet été et ont provoqué des épidémies de leptospirose, une maladie du foie qui se propage via les excréments des rats d'égout. « Je me sens trahie », confie Crisa Tolentino à la BBC. Cette enseignante philippine dit travailler dur, surveiller ses dépenses, payer des impôts pour apprendre ensuite que des milliards de dollars profitent à des politiciens corrompus aux Philippines.
Et c'est aussi contre la corruption que le drapeau de One Piece a été accroché au Népal.
Sur les portes dorées du siège du gouvernement ou sur un pont, montre le Nepali Times. Un geste chargé de sens, souligne CNN. Pour les fans de One Piece, le drapeau symbolise la quête du héros Luffy pour réaliser ses rêves, libérer les peuples opprimés et combattre un pouvoir autocratique. Dans le monde réel, le drapeau One Piece est un signe de ralliement pour la jeunesse en Asie. Il suffit juste de l'agrémenter de slogans locaux tels que « La génération Z ne se taira pas » ou bien « Votre luxe, notre misère ». C'est ce qu'ont dénoncé de jeunes Népalais au début du mois après la suspension de plateformes dont Facebook, X, YouTube. J'en ai parlé il y a 2 semaines ici même. Dans ce pays de 30 millions d'habitants, rappelle la BBC, plus de 80% des Népalais communiquent via les réseaux sociaux et ils y expriment aussi leur colère contre l'incurie politique, la corruption et le népotisme, le train de vie luxueux des Nepo Babies, les enfants de responsables politiques au Népal qui étalent leur richesse sur TikTok, alors que les Népalais sont soumis à de lourds impôts, notent les quotidiens népalais Kathmandu Times et Kantipur. La jeunesse népalaise, sous la bannière One Piece, a réussi à renverser le gouvernement et la nouvelle première ministre élargit aujourd'hui son cabinet, annonce le Nepali Times, pour répondre notamment aux revendications des manifestants.
Et ce n'est pas la première fois que culture populaire et politique s'entremêlent.
On l'a déjà vu en 2014 et en 2021 lorsque les manifestants pro-démocratie en Thaïlande avaient adopté le salut à 3 doigts de la série de livres et de films Hunger Games, rappelle CNN, le Thai Inquirer et le Guardian. Un symbole de résistance également repris par les opposants au putsch de 2021 en Birmanie. Place aujourd'hui au drapeau de One Piece, indique The Philippine Star, un drapeau fictif mais réellement banni en Indonésie, annonce le Jakarta Post lors des récentes manifestations déclenchées par les bas salaires, le chômage et les avantages accordés aux parlementaires. Même grief aux Philippines, où la jeunesse a aussi du rap pour bande-son de sa colère. Le titre Upuan de l'artiste local Glock9 s'interroge sur l'incapacité des politiques à faire preuve d'empathie envers les citoyens, des parlementaires bien loin de la vie des Philippins ordinaires. rapporte la BBC. Le président Ferdinand Marcos Jr. sait parfaitement jusqu'où peut aller cette colère populaire. Ce sont les manifestations anti-corruption qui avaient chassé son père du pouvoir en 1986, rappelle la BBC, mettant fin à une dictature qui a duré des décennies et détourné des milliards de dollars de l'État philippin. Un dernier mot encore, j'attends vos questions sur cette chronique sur l'actualité internationale pour construire ensemble la revue de presse interactive du samedi. Je vous lis donc avec plaisir à l'adresse fcrdpi@radiofrance.com.
Merci beaucoup Catherine Dutu.